RMC After Paris.
Nicolas Jamin.
Salut à tous, bienvenue dans l'After Paris. Merci d'être avec nous en podcast audio, en vidéo, sur vos box SFR Free, téléconnecté, application RMC, BFM Play, et bien sûr la chaîne YouTube de l'After. Cette semaine dans l'After Paris, Jimmy Brown. Salut Jimmy.
Salut Nico, bonjour à tous.
Arthur Perrault, Arthur, reporter Paris Saint-Germain, RMC Sport. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Et on a convoqué un autre supporter du PSG. Je suis un peu au milieu du cul, là j'ai l'impression. Mais son quotidien, c'est la Première Ligue, Arsenal surtout. Julien Laurence nous fait l'honneur d'être avec nous cette semaine. Salut Jules.
Salut Nico, salut à tous, salut les gars.
On y est
salut
presque bien, messieurs, ça arrive dans les prochaines heures bien sûr, cette demi-finale aller de Ligue des Champions à l'Emirates Stadium, Arsenal Paris Saint-Germain, mardi soir 21h, on va comparer, on va jouer un peu cette semaine, comparer ces deux formations, ligne par ligne, poste par poste bien sûr, qui est le plus en forme, qui est l'effectif le plus complet, qui gagnera la bataille tactique, et qui est le plus sous pression également pour ce rendez-vous qui va entrer dans l'histoire de ces deux clubs Arsenal comme Paris. Vous écoutez, regardez le podcast After Paris, c'est parti. Alors avant de jouer au jeu des comparaisons, faisons un petit point infirmerie quand même pour bien cadrer nos débats. Ça a son importance bien sûr. Arthur, sur ce terrain-là, gros avantage Paris Saint-Germain.
Ah ouais, puisque habituellement, toujours avant les matchs, que ce soit de championnat ou de Ligue des Champions, les journalistes reçoivent un bilan médical. Et ben j'ai envie de te dire, ça fait deux semaines qu'on n'a pas reçu de bilan médical, encore ce matin. Donc ça veut dire personne à l'infirmerie, tout le monde était là au centre d'entraînement, tout le monde a le sourire. Et un petit peu de fatigue quand même quand on échange avec, avec les joueurs directement. Un petit peu de fatigue, je pense. Donc à mon avis, un peu plus de gestion du côté de Luis Enrique à ce niveau-là. C'est pour ça notamment que l'entraînement d'hier était programmé à 17h en fin de journée.
Entraînement de mercredi, je précise.
Voilà, donc ce qui a permis aux joueurs d'avoir une journée presque pleine pour se reposer et rester
un peu à la maison. Parce que fin de saison, parce que enchaînement des matchs.
Surtout enchaînement.
D'accord.
Notamment dans l'interview qui va être diffusée dans Rotten sans flamme avec Nuno Mendes. Nuno Mendes en parle, voilà, de cet enchaînement qui pèse beaucoup sur les organismes. Mais le staff a des petites parades, voilà. Il y a une certaine application apparemment qui existe pour calculer l'état de fatigue de chaque joueur en fonction de ses minutes jouées. Donc voilà, ça aide pas mal.
On a la pointe de la technologie côté Paris.
La technologie aide beaucoup.
Il a géré l'effectif. Ouais, ouais. Après, il faudrait pas traîner comme un boulet le report du match à Nantes. Ils auraient pu jouer entre les deux matchs d'Aston Villa. Ils ont fait ce choix-là, ce qui fait qu'il y a un enchaînement. À date, il n'y a pas de blessés. On enregistre le jeudi. Il faut rappeler que vendredi soir, il y a un PSG Nice qui est programmé. Donc, il faut croiser les doigts pour que ça se passe bien sur cette dernière étape à Arsenal.
Très bonne gestion de Luis Enrique et son staff. Il y a sûrement aussi une part de réussite quand même quand ton infirmerie est vide à quelques semaines de la fin de la saison. Arsenal, en revanche, Julien, sur ce terrain-là, est défaillant par rapport au PSG. Infirmerie quasi pleine, quoi.
Ouais,
quasi pleine. Tout dépend de la surface de l'infirmerie, en fait.
Ouais, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a, du monde. Enfin, il y a des gens à l'infirmerie, il y a des joueurs à l'infirmerie que le PSG n'a pas. Jorginho, par exemple, qui est aussi un coup dur parce que on l'a déjà répété plusieurs fois, mais on en reparlera tout à l'heure. Thomas Partey suspendu pour le match aller. Jorginho aurait été un remplacement quasiment parfait, on va dire, ou en tout cas adéquat. Il sera pas là non plus. Pas de Calafiori, ou Calafiori pourrait être de retour, mais ça fait un mois qu'il a pas joué et ça paraît très compliqué. Peut-être une place sur le banc, mais pas beaucoup plus. Voilà. Et puis bien sûr Kai Havertz en pointe, qui est lui maintenant depuis plusieurs semaines déjà absent et qu'on ne reverra pas tout de suite. Pareil pour Gabriel, bien sûr, le défenseur central. Donc il n'y a pas finalement de, il y a rien de neuf dans côté blessé par rapport à Arsenal, par rapport à ce qu'on avait vu avant le match du Real Madrid par exemple.
Alors quelle est l'équipe Arsenal ou Paris la plus en forme sur les dernières semaines et avant d'aborder cette demi-finale de Ligue des Champions? C'est vrai qu'Arteta a quand même réussi à bricoler avec un impact limité sur sa formation, Julien, et sur les résultats. Bon, deuxième de Première Ligue Arsenal, demi-finaliste de Ligue des Champions, vainqueur du Real en quart, zéro défaite sur les 12 derniers matchs. Il y a quand même quelques accrocs dans cette série, Julien.
Ouais, c'est que 3 victoires sur les 9 derniers matchs de championnat. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de points. C'est une équipe qui perd beaucoup de points quand elle prend l'avantage. C'est très, très intéressant, assez fascinant à suivre, à analyser, à regarder. C'était la 26e fois hier soir, donc mercredi soir, contre Crystal Palace, qui prenait l'avantage en Première Ligue cette saison. C'est quand même beaucoup de matchs. Sur les 34 qu'ils ont joué, 26 fois avoir l'avantage, ouvrir le score. Et c'était la 18e fois qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Ils ont fait 17 victoires sur ces 26 matchs-là. Donc, il y a 9 matchs où ils ne gagnent pas, 9 matchs où ils font match nul, 9 matchs où ils se font rejoindre au score. Ça fait 18 points de perdu et ta saison, elle est là. Elle est dans ces 18 points-là. Donc, ça n'a pas été parfait, effectivement. Je pense que la Ligue des Champions a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. A pris aussi la priorité quand tu joues le Real Madrid et puis ensuite tu t'avances vers le PSG. C'est ça qui est dans l'esprit des joueurs et même, je pense, de Mikel Arteta et de son staff aussi à lui. Donc, ça explique peut-être la période un petit peu moyenne, on va dire, entre guillemets, de cette équipe-là. Mais comme on l'a vu contre le Real, ils sont aussi capables d'élever leur niveau de jeu, comme je pense le PSG sera capable de le faire aussi dans ces deux matchs-là.
Ligue des Champions, priorité, obsession, a dit Luis Enrique également pour la première fois en conférence de presse. Est-ce que là aussi, comme à Arsenal, ça peut empiéter sur les performances du championnat domestique ? Donnant les matchs du PSG, je le rappelle, un nul contre Nantes, une petite victoire contre le Havre. Ouais. Il y a aussi la lourde défaite face à Aston Villa, dans la forme en tout cas.
Luis Enrique a eu une formule ce matin en conférence de presse que j'ai trouvé plutôt drôle, où il a dit très clairement, si on me garantit que je fais finale de Ligue des Champions et que je perds contre Nice
et donc
en
que je ne suis plus invincible,
voilà, je signe tout de suite.
Évidemment.
C'est assez révélateur. Par contre, ce que l'on sait, et pour avoir échangé avec pas mal de personnes du staff, que ce soit lors du match nul face à Nantes, un but partout où il y a eu, Jimmy le confirmera, je pense, un quart d'heure de battement où c'était un peu le flou dans le jeu parisien, plus la grosse demi-heure contre Aston Villa où vraiment le Paris Saint-Germain s'est fait peur. Ça a vraiment eu l'effet piqueur de rappel. C'est-à-dire que tout va bien hein, au Paris Saint-Germain, il y a des sourires, on l'a encore vu ce matin au campus PSG, mais ça a permis à la fois Luis Campos et à Luis Enrique de venir corriger des micro-détails, que ce soit dans les comportements, dans les placements de certains joueurs et certains cadres du groupe. Oui, c'est vraiment sur ça que le staff parisien et la direction du club ont insisté ces dernières heures.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses à distinguer, on l'a déjà évoqué longuement, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par Arsenal depuis le retour de trêve internationale. Moi, je n'ai pas vu un match 90 minutes pleine du PSG. Il y a eu des séquences où c'était pas mal. Saint-Etienne, t'es mené, tu reviens avant la mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est une balade. Dunkerque, t'es quand même mené 2-0. Il y a ce match contre Aston Villa où t'es mené au Parc, où tu vas perdre aussi là-bas. Mais effectivement, ce qui a interpellé sur le match d'Aston Villa et sur le match contre Nantes, c'est certaines attitudes et des retours défensifs qui étaient moins probants que ce qu'on a pu voir quand le PSG, on avait l'impression de voir cette équipe marcher sur l'eau, notamment sur la double confrontation face à Liverpool. On voyait que collectivement, voilà, il y a certaines individualités qui rechignaient peut-être un petit peu à faire les efforts. Si la piqûre de rappel a été faite, c'est tant mieux, parce que je pense qu'effectivement, ça ne pardonnera pas contre Arsenal. Mais si on doit comparer les dynamiques entre les deux équipes, sur cette période post-trêve internationale du mois de mars, je trouve que Arsenal a eu quand même deux matchs où ils ont impressionné, cette double confrontation face au Real. Moi, franchement, Julien, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Que ce soit à l'Emirates et encore même plus peut-être à Bernabeu. Alors après, c'est peut-être lié aussi à la faiblesse du Real dont on a beaucoup parlé. Mais la manière dont ils ont su gérer ce match retour alors qu'on leur promettait l'enfer et finalement, ils vont aller gagner ce match là-bas sans quasiment jamais être en danger, ça montre quand même à quel point cette équipe est costaude et focus sur cet objectif Ligue des Champions.
Ouais, c'est vrai, tu as raison complètement, mais après on a aussi vu ce que tu viens de dire sur le PSG est aussi juste pour Arsenal en championnat. Il y a aucun doute là-dessus. Alors eux, ce qu'ils n'ont pas, c'est le trou d'air effectivement à Villa Park dont Arthur vient de parler, et 30 minutes où ils sont à la rue un petit peu perdus, etc. Ça, ils ne l'ont pas vécu, c'est sûr, depuis pas trop cette saison, en tout cas pas depuis là sur les dernières semaines. Mais c'est la seule différence. Après, je vois beaucoup de points en commun, moi qui regarde tous les matchs des deux équipes, je vois beaucoup de points en commun finalement, en championnat surtout, entre ces deux équipes qui n'ont plus rien à jouer, mais des choses différentes. Mmh. Mais Arsenal, c'est pour garder cette deuxième place. Si jamais ils pouvaient aller chercher Liverpool et derrière, ça ne revient pas vraiment. Le PSG, c'est champion depuis maintenant plusieurs semaines. Et la Ligue des Champions, elle accapare vraiment tout. Elle accapare ta concentration, elle accapare ton énergie, elle accapare tout ce qu'on dit nous sur ces deux clubs-là. Maintenant, c'est autour de la Ligue des Champions. Donc, moi, je retrouve pas mal de similitudes.
Et on peut même aller plus loin, Julien, si tu élargis aux autres demi-finalistes. Le Barça, ça gagne par un but d'écart ces deux derniers matchs de championnat alors qu'ils sont à la lutte pour le titre. L'Inter, ils en ont pris trois en Coupe d'Italie hier contre Milan. Ouais. Ils perdent à Bologne. Donc voilà, c'est... personne n'est infaillible et c'est normal d'avoir des baisses de régime quand tu as des échéances aussi importantes qui arrivent.
Le Sénat qu'il a dit également en conférence de presse ce jeudi, nous allons avoir une grande version du PSG face à Arsenal. Il fait clairement un distinguo, une distinction entre ce qu'il produit en championnat avec une équipe qui n'a quasiment plus qu'un objectif en Ligue 1 et ce qu'il compte produire en Ligue des Champions et en l'occurrence mardi soir face à Arsenal. Julien, partons sur les compos et on va comparer joueur par joueur ensuite, joueur parisien, joueur d'Arsenal. Pas trop de doutes sur la compo qu'alignera Mikel Arteta, elle est quasiment connue.
Oui, pour le match aller, donc on l'a dit, pas de Thomas Partey qui est un vrai gros coup dur pour Arsenal parce qu'il a été, il est très bon depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois. On aura sûrement Declan Rice qui jouera un tout petit peu plus bas que son poste habituel de numéro 8 là, sur le demi-espace gauche, qui viendra jouer en 6 dans l'axe, vraiment en sentinelle. Et on aura Mikel Merino qui lui aussi va décrocher un petit peu de son poste de numéro 9 ou de faux numéro 9 si vous voulez, vu qu'il est plutôt un milieu de terrain relayeur à la base, mais qui a très bien remplacé Havertz, qui a plutôt très bien dépanné dans cette position-là, qui reviendra dans son poste préférentiel finalement de milieu relayeur côté gauche. Donc c'est un joueur absent en partée, mais qui fait bouger deux joueurs, qui fait deux changements à Mikel Arteta. C'est pas du poste pour poste, c'est vraiment deux changements. Trossard, qui aurait dû être sur le banc en temps normal, viendra lui jouer en numéro 9. Alors il est plus numéro 9 que Merino, c'est sûr, mais ça reste un faux numéro 9, comme on l'a encore vu hier contre Crystal Palace mercredi soir, où il décroche beaucoup, il vient beaucoup au milieu de terrain chercher le ballon. C'est pas un 9 comme c'est plus un 9 comme Dembélé qu'un 9 comme Erling Haaland par exemple. Donc voilà, après le reste c'est du très classique: Martinelli, Saka les deux ailiers, Odegaard le troisième milieu de terrain, la défense à 4 avec Lewis Kelly, le jeune arrière gauche anglais à gauche, donc Timber à droite, Saliba, Kivior et Raya dans les buts.
Alors, plus d'interrogations côté Paris Saint-Germain. On a toujours le même doute avant une échéance comme celle-ci en Ligue des Champions, Arthur. En clair, c'est Barcola ou Doué.
C'est ça.
Kvaratskhelia semble. On est tous d'accord pour dire désormais il est limite indiscutable dans l'esprit de Luis Enrique.
Sur ce type de match, pour moi, oui, il n'y a pas photo.
Okay. Même si face à Nantes, il a peut-être un peu levé le pied Gvichak Kvaratskhelia, mais oui, en Ligue des Champions, il reste quasiment un titulaire indiscutable. Ce qui nous donne Donnarumma dans la cage, la défense, Hakimi à droite, Mendes à gauche, charnière, Marquinhos, Pacho au milieu du grand classique,
évidemment.
Neves, Vitinha, Ruiz, Dembélé en faux numéro 9, Kvaratskhelia donc, et cette incertitude
à gauche,
je pense que ce sera plutôt ça, et à droite donc Doué ou Barcola, sachant que, et je me souviens de ce que m'avait dit le staff avant Aston Villa, mais bon, le scénario était un peu différent, c'est que Luis Enrique pense que Doué est plus à même de contenir une équipe adverse qui va être très offensive, et que Barcola, de façon assez logique, va pouvoir profiter des espaces et des contres dans ce type de rencontre. Quand on approche de ce match aller, je me dis que la tendance est quand même à ce que Désiré Doué débute, même si lui aussi face à Nantes a peut-être levé un peu le pied et dans les attitudes dont on parlait tout à l'heure avec Jimmy a montré un peu de relâchement. Mais je suis pas vraiment inquiet sur le fait qu'entre-temps il y a eu des discussions, des ajustements et qu'il soit de nouveau performant et entre guillemets sur le droit chemin.
Je l'avais vu Julien également dans un instant. Vas-y Jimmy.
Non, moi je veux pas être chat noir, mais tout ça sous réserve du match de Nice. Encore une fois, il faut que ça se passe bien au niveau des blessures à ce niveau-là. Moi j'imagine plus Barcola sur un match à l'extérieur, même config en fait que contre Aston Villa, c'est-à-dire que quand tu vas avoir des espaces à l'extérieur, parce que on présume qu'Arsenal.
On présume. Est-ce que ce sera, c'est aussi évident aujourd'hui?
Mais je pense, sous ton contrôle Julien, mais je pense qu'Arsenal va jouer sur un match aller à domicile, ils ont toujours fonctionné comme ça, donc tu vas avoir plus d'espace dans le dos du gamin, en plus de Lewis Kelly, tu vas pouvoir le faire défendre un petit peu, de toute façon ça va se jouer là. Moi je pense que cette confrontation va se jouer sur ces duels Nuno Mendes, Saka d'un côté, de l'autre tu vas avoir Kvara sur Timber, enfin ça va beaucoup se jouer là, et je pense que Barcola peut faire mal à Arsenal. Et pour autant, au Parc des Princes, au retour, j'imagine plus peut-être Désiré Doué d'y démarrer, comme ça a pu être le cas sur les tours précédents.
Barcola pour les espaces, Julien, tu es d'accord avec Jimmy ?
Oui, tout à fait. Ouais, je pense que ce sera l'équipe, les trois de devant de Liverpool à l'extérieur, les trois de devant de Villa à l'extérieur aussi, même si Kvaratskhelia avait débuté à droite, et on en avait parlé d'ailleurs dans le débrief après le match. Kvaratskhelia à droite, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert vraiment à rien. Je préfère Barcola à droite, Kvaratskhelia à droite, ça ne sert à rien. On l'a vu à Villa Park, et après, il plonge vite aussi quand il a passé repère. Donc, Kvaratskhelia à gauche, et oui, je mettrais plutôt une pièce sur Barcola à droite à l'aller, et Doué au retour au parc.
Bon, voilà les amis pour les compositions à confirmer tout ça dans les prochaines heures. Hein. Ce sera notamment le travail d'Arthur et toute la cellule PSG d'RMC Sport. Alors, jouons à présent les amis. On va comparer poste par poste les 11 titulaires hein, qu'on a détachés désormais. Commençons évidemment par le gardien. Vous me dites qui vous choisissez. Après, on fera une équipe combinée. Donnarumma ou Raya ? Arthur ?
Oh, c'est très compliqué.
Eh oui, c'est compliqué, mais c'est pour ça que
je pose la question. Au match aller, je dirais Raya.
Au match aller, Raya. Et nuance. Ok, Jimmy.
Moi, je mets Raya. Raya, la meilleure défense de Première Ligue. Tu encaisses 29 buts en 34 matchs de Première
Ligue.
C'est
pas que grâce à lui. Hein.
C'est pas que grâce à lui, mais il a apporté sa pierre à l'édifice. Et oui, Donnarumma, on reste sur l'impression des deux derniers tours de Ligue des Champions qui ont été très bons. Mais voilà, moi j'ai encore en mémoire le match à Arsenal en phase de ligue où il est en responsabilité sur les deux buts. J'ai le sentiment que Raya est un peu plus sûr, même si on a le Donnarumma de Villa Park ou d'Anfield, je mets Donnarumma. Mais sur l'ensemble de la saison, je mettrai quand même Raya.
Julien.
Ouais, je pense plus complet, meilleur avec le meilleur balle au pied aussi, exemple, dans la relance, tout ça. Ça, c'est à ce niveau-là. Okay. Je pense que Luis Enrique adorerait avoir un gardien qui est aussi fort dans le jeu au pied que David Raya, pied droit et pied gauche. Et puis oui, je pense que globalement, mais il est aussi un peu plus âgé, et même s'il a moins gagné forcément que Donnarumma. Mais moi, j'irais aussi avec Raya.
Et pour la nuance que j'ai mise, est-ce qu'il n'est pas plus serein, plus performant à domicile aussi, Julien ? C'est quelque chose que tu ressens ou pas
Ouais, peut-être. De toute façon, ils sont meilleurs à domicile, comme un peu tout le monde. Mais, ouais. Mais c'est vrai que cette saison, il y a des très très gros arrêts à domicile à l'extérieur de la part de Raya. Sur sa ligne, il a aussi très bien, vraiment beaucoup progressé.
On avance. Défense centrale, les amis. La charnière, axe droit, Saliba ou Marquinhos ? Je pense que j'ai la réponse. Arthur.
Saliba.
Oui, je crois que c'est à peu près clair. Saliba l'unanimité. Aussi, Jimmy. Ouais. Julien.
Ouais, y a pas.
Pardon, pas tant là-dessus. Ok, donc nous avons deux.
Même s'il fait 2-3 caguettes ces derniers temps, Saliba. Si
pour faire deux erreurs,
si pour en faire une mardi soir, on prend.
On a deux Gunners pour l'instant à 0 parisien. Encore dans la chaîne centrale, axe gauche, Kvyat ou Pacho ? Arthur.
Pacho.
Jimmy.
Pacho, tu m'aurais dit Gabriel, mais là c'est Pacho.
Merci.
Sur Kvyat.
Jules.
Ouais, pareil. Gabriel, je pense qu'il y a débat avec Pacho. Kvyat, il n'y a pas débat.
Les latéraux, Nuno Mendes ou Lewis Killy ? Latéral gauche, bien sûr. Arthur.
Nuno Mendes.
Je pense qu'on va être tous d'accord.
Oui, pareil. Même s'il est bon, le gamin. Mais Nuno Mendes, quand même.
Ouais. Jules. Ouais,
c'est pas un arrière-gauche en plus, hein, Lewis Killy. C'est un milieu de terrain qu'on a repositionné là parce qu'il y avait besoin et qui est très, très bon, effectivement, qui vraiment surprend tout le monde. Mais Nuno Mendes. Pour moi, de toute façon, les deux latéraux parisiens, c'est les meilleurs du monde.
Je pense qu'il y a plus d'accord.
De l'autre côté, ça va.
Allez, on met Nuno Mendes et Hakimi. Parle-nous quand même de Lewis Killy, Julien, qu'on en profite parce que tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent chaque semaine l'After Paris, ne voient pas tous les matchs d'Arsenal comme toi. Jeune joueur issu du centre, grosse promesse, qui fait une saison extrêmement solide.
Ouais, qui a un milieu de terrain de formation axial, qui était déjà très fort chez les jeunes dans cette position-là, qu'on a repositionné à gauche pour dépanner un petit peu à la base, mais aussi parce que dans l'esprit d'Arteta, c'est un milieu de terrain supplémentaire sur le terrain, finalement un petit peu comme ce qu'on a pu voir en tout cas parfois chez le City de Guardiola dans le contrôle du ballon, le contrôle de la possession, parce que vous verrez mardi, Lewis Killy viendra beaucoup dans l'axe, notamment dans la phase de construction. Il est très fort sous pression, c'est quelqu'un qui est très press resistant comme les Anglais, donc qui résiste à ton pressing ou à ton contre-pressing, qui perd très peu de ballons. Alors il a encore quelques erreurs et quelques manquements défensivement, parce qu'une fois encore, c'est pas son poste arrière gauche. Contre le PSV Eindhoven, il doit être expulsé après 25 minutes par exemple pour deux cartons jaunes. Il y a quelques erreurs, il y a des cartons rouges en championnat, il y a quelques erreurs de placement, quelques erreurs techniques, le pénalty qu'il donne à Everton, c'était un petit peu dur ce pénalty, mais on voit qu'il est encore très très jeune dans le côté défensif de son rôle, de son poste. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, Jimmy en a parlé tout à l'heure, à exploiter pour le PSG, que ce soit Barcola ou Doué sur son côté, mais c'est vrai qu'il impressionne par sa sérénité, sa maturité pour quelqu'un de 18 ans. Et même Timber, qu'on choisisse Hakimi, il y a pas de problème.
Ouais, c'est un bon
Timber,
défenseur,
défensivement, c'est très fort, hein, en 1 contre 1 défensivement, on l'a vu avec contre Vinicius à l'aller et au retour, c'est dans la poche, hein, dans la poche arrière, Vinicius.
Voilà pour la ligne défensive. Les milieux de terrain, alors on a choisi, parce qu'on a incertitude hein, sur le positionnement de chacun, qui sera relayeur, qui sera dans la défense.
Arsenal.
À Paris, on le sait, c'est plutôt que concernant Arsenal. Alors on a choisi deux profils à peu près similaires, à peu près, hein, je dis bien. Declan Rice, Fabian Ruiz. Arthur.
Fabian Ruiz.
Jimmy.
Non, moi c'est Declan Rice.
C'est la
révélation de cette saison en Ligue des Champions, Declan Rice. Surtout sur la double.
Tu l'aurais dit avant le quart de finale, vraiment ?
Est-ce qu'il est vraiment régulier comme ça tout au long de la saison ?
Franchement, il a été bon. Hein. Moi, sous ton contrôle, Julien. Mais Rice au milieu, c'est costaud quand même.
Au-delà de son doublé sur coup franc contre le Real, il faut que tu nous parles de lui.
Non, c'est pas que ça.
C'est pour ça que je pose la question à Julien.
Il est capable de récupérer des ballons, de distribuer le jeu, etc. C'est métronome quand même.
Julien, ouais. Tu choisis Rice déjà
fort.
Ou Ruiz ?
En 2025, là, c'est très fort.
Ouais,
après,
je m'en rends pas compte.
Pour Fabian, bien sûr, hein, tout l'équilibre qu'il apporte, encore une fois, la maturité, l'expérience, surtout avec les deux autres, c'est un milieu quasiment parfait, celui du PSG. Mais Rice, c'est vraiment très fort et c'est un peu plus jeune aussi. Moi, je prendrais Rice, mais je peux comprendre si quelqu'un cherche un gaucher, si quelqu'un veut un peu le profil de Fabian Ruiz, ça s'entend aussi. Mais Rice, c'est une machine de guerre, sincèrement.
Ok, Declan Rice, donc, qui est choisi par vous deux, donc majorité pour le Gunner. Pour l'instant, on est à 1, 2, 3 Parisiens contre 3 joueurs d'Arsenal. C'est très équilibré dans cette équipe mixte. Merino, Mikel Merino, João Neves, Arthur.
Je vais dire Merino.
D'accord, Mikel Merino.
Je me bats sur l'état de forme.
Moi, je vais dire João Neves parce que c'est mon chouchou, c'est mon joueur préféré.
On s'en fout de ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet.
Sur l'état de forme, Jimmy,
on
je
est là
suis
pour
pas sûr.
Aborder ce cette demi-finale.
Si tu me demandes de choisir mon équipe, moi dans mon équipe,
alors comme ça,
c'est mon chouchou. Oui, non, mais je vais t'expliquer. Merino, déjà, il n'est pas installé souvent à ce poste-là. Julien peut nous en parler. Il a beaucoup joué depuis les blessures en attaque. Il a beaucoup joué au poste de numéro 9. Évidemment, Merino, c'est un super joueur. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Pour autant, le João Neves, sur cette campagne de Ligue des Champions, je mets Aston Villa un peu de côté, mais que ce soit contre Liverpool, que ce soit contre City avant, où il est décisif en plus, il est buteur, j'ai toujours trouvé capable d'élever son niveau. Il joue avec beaucoup de personnalité, c'est un joueur que j'adore encore une fois, donc moi je choisis João Neves au milieu de terrain.
Jules.
Moi aussi, Neves. Hein. Sur la saison, Merino ne serait pas titulaire mardi soir si tout le monde était là. Hein. Il serait sur le banc jusqu'à
plus,
la 75e minute.
Si tu avais parté, c'est parti qui jouait.
Alors là, c'est vrai que bon, là, en numéro 9, en faux numéro 9, il a plutôt assuré. Mais Neves, pour moi, cette saison, c'est exceptionnel. À 20 ans maintenant, mais c'est ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Moi, dans c'est l'intelligence vrai. De jeu, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui soient supérieurs que lui hein, dans cette compétition.
Moi, je me fais taper dessus, Julien. Merci quand même.
C'est moi qui m'inquiète.
Non, mais toi, ton argument,
bien en ce moment.
Je le mets parce que c'est mon chouchou, on dirait. Je sais pas.
Mais c'est mon chouchou pour ces raisons-là, parce que pour la personnalité.
Tu n'es pas payé pour nous parler de tes affects, Jimmy. Tu es payé pour ton expertise.
Déjà, je ne suis pas payé. Je fais ça bénévolement, ce podcast. J'aime ce club. Et deuxièmement, c'est justement pour les raisons.
On avance. Vitinha Odegaard, Julien.
Alors là, c'est vraiment intéressant. Là, il faut un tout petit peu plus de temps parce qu'on parle aussi d'un.
Vas-y.
Non, mais on parle d'une sentinelle contre un relayeur. Déjà à la base, c'est un petit peu différent. Mais sur la forme actuelle, sur la saison, Vitinha est meilleur qu'Odegaard. Alors oui, il y a un petit peu cette alerte, on va dire, cette mini alerte de Villa Park, la seconde période où il est un peu perdu, il est sous pression, et quand il est sous pression, le jeu du PSG s'en ressent. Un petit peu comme Odegaard finalement pour Arsenal. Hein. Quand lui est moins bien, il est moins bien cette saison. Dans la créativité, c'est beaucoup moins bien pour Arsenal. Il marque moins de buts que la saison dernière. Il se crée moins d'occasions. Ils ont moins de frappes. Donc il y a plein de choses qui dépendent énormément de Vitinha côté PSG et d'Odegaard côté Arsenal. Là, moi, j'irais pour Vitinha.
Ok, Jimmy.
Moi, je rejoins Julien. Je pense que tu auras encore plus de mal à remplacer Vitinha au PSG qu'Odegaard à Arsenal. Donc oui, je vais opter pour Vitinha. Sur la saison qu'il fait, franchement, c'est le métronome du milieu parisien. Tous les ballons passent par lui. Alors oui, effectivement...
On dit que c'est une sentinelle, mais c'est un homme qui se projette aussi énormément.
Beaucoup.
Énormément.
Beaucoup. C'est vraiment le soldat de Luis Enrique. Qui
est capable de marquer des buts aussi.
Aussi, il l'a montré ces derniers jours.
Même si, attention, Odegaard, joueur extraordinaire. Hein.
Je vais aussi le choisir, mais encore une fois, je suis peut-être un peu borné avec ça sur l'état de forme. Lui, je trouve qu'il n'a pas véritablement connu, même s'il y a eu cette petite alerte à Aston Villa, il n'a pas vraiment connu de période de baisse.
Et
je trouve qu'il arrive à maintenir son niveau et que d'autres ont été bien plus en difficulté que lui récemment.
D'accord. Allez, donc nous avons désormais un milieu de terrain Declan Rice, João Neves, Vitinha. Devant, donc on va dire Gvara ou Saka.
Ah non, moi, tu ne peux pas me faire ce duel-là. Non, Saka, il joue à droite. Gvara, il va jouer à gauche.
Bon, alors,
moi, je mettais les deux dans mon équipe.
Alors, on va dire Barcola ou Saka.
Ah là, il n'y a pas de débat, par contre, c'est Saka. Pour moi, c'est Saka.
Saka, c'est World Class.
Bah oui,
Saka, c'est le World Class player, bien sûr.
Ok, on avance alors, les amis. Gagnons du temps. Allons désormais sur Gvara ou Martinelli.
Là, c'est Gvara.
Ouais, Gvara aussi.
Là, c'est Gvara.
Ouais, ouais, c'est Jules. Si Martinelli revient bien, Martinelli revient à un bon niveau.
Parle-nous de lui, justement, un petit peu, là, depuis son retour, justement.
Il y a deux saisons exceptionnelles, vraiment. Après, c'était une de ces saisons qu'on connaît et qu'on voit parfois sur certains joueurs où tout va dans ton sens. Tu peux tenter ce que tu veux, ça rentre, fond, ça fait passe-des, ça va être tout réussi, tout sourit. L'année dernière, c'était plus compliqué. Cette début de saison, c'était plus compliqué aussi. Là, il revient bien. C'est quelqu'un qui a une vitesse, un jeu en mouvement qui est assez exceptionnel, mais qui parfois, je trouve, manque un petit peu de lucidité, peut-être dans son dernier geste, manque d'un petit peu de awareness, comme disent les Anglais, donc de regarder ce qui se passe autour de lui. Il joue souvent la tête baissée, je trouve, par exemple, mais ça reste un très gros talent. Mais par rapport à Kvara, le Kvara des grands soirs, le Kvara du match aller de Liverpool ou du match aller d'Aston Villa, par exemple, Martinelli, c'est pas encore à ce niveau-là, non?
Voilà, nous avons notre 11 combiné, les amis. Je vais récapituler.
Il te manque le 9.
Le 9, ouais, je ne l'ai pas fait parce que c'est évident. Dembélé, non mais les amis, on passe à 3 minutes dessus. Ou Trossard. Arthur, Dembélé ou Trossard?
Non, Dembélé.
Jimmy, Dembélé ou Trossard?
Ousmane qui va être décisif aller-retour en plus.
Julien, Ousmane ou Trossard?
C'est mon gars sûr en plus.
Ok, c'est ton gars sûr, évidemment. Tu vas gratter son maillot après le match, allez, j'espère. Donc nous avons 7 Parisiens, 4 Gunners. Raya dans le but. Défense centrale, Saliba, Pacho. À gauche, Nuno Mendes. À droite, Hakimi. Milieu de terrain à 3, bien sûr. Declan Rice, Joao Neves, Vitinha. Et devant, donc, Saka, Kvara, Dembélé. Avec ça, tu gagnes la Ligue des Champions. Quasiment. Tout ça, bien sûr, ne présume pas du score et du vainqueur de ce duel. Hein.
Évidemment.
Rien ne remplace les relations entre joueurs construites saison après saison. C'est beaucoup plus inestimable que les individus pris à part. Voilà, les amis. Tiens, rapidement, un mot quand même sur le dossier des coups de pied arrêtés, parce qu'on va en parler également avant ce match. Il nous reste une minute maximum, Arthur. Je rappelle qu'Arsenal, on en parle souvent avec Julien, est quasiment champion du monde avec le Barça cette saison. 26 buts pour le Barça, coups de pied arrêtés. 23 pour Arsenal, c'est quasiment 20% de ses buts. À Paris, Luis Enrique en a parlé. Il a dit on est très bons, nous aussi.
Oui, et puis surtout, il balaye le fait de vraiment prendre du temps pour travailler les coups de pied arrêtés. Et alors, pour vous résumer un peu sa pensée, c'est si Paris a la possession du ballon, si Paris est offensif, Paris ne concédera pas de corner, donc Paris peut dormir tranquille.
Voilà, c'est court, c'est efficace. On fait encore plus court. Julien, qui se qualifie pour la finale de Ligue des Champions?
Sincèrement, je pense que personne ne peut prédire. Je ne sais pas, c'est du 50-50.
Okay. 50-50 5, on peut
55-45 parce qu'il n'y a pas Partey, tu as le match retour à Paris. Donc
55-45
pour Paris. Mais pour moi, juste très rapidement, c'est la force physique d'un côté, d'Arsenal, notamment au milieu de terrain, quand Partey sera là. C'est très très fort physiquement face à la virtuosité technique du PSG en face. À vous de choisir.
Voilà les amis, c'est le mot de la fin, celui de Julien. Merci Jimmy, Jimmy Brown, Arthur Perrault, Julien Laurent.
Salut messieurs.
Bonne écoute à tous et on se retrouve la semaine prochaine après donc cette demi-finale. Allez, bye bye.
RMC After Paris.